La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Récemment, je suis allée à une fête des rêves et pour cela, j'ai préparé quelques contes autour des rêves. Quelle différence y a-t-il entre un rêve, un conte ? C'est étrange. On est un peu dans le même univers. Le rêve, le conte, est-ce que le conte est un rêve éveillé ? Est-ce que le rêve nous raconte un conte ? Il y a aussi Grossendeck qui est donc qui était un très grand mathématicien et qui a écrit un long ouvrage sur le rêve et le rêveur. Tout est chez le rêveur. Le rêveur maîtrise tout l'univers et le rêve est un message adressé au rêveur. Et les mille et une nuits nous invitent à rêver mille et un jours, mille et une nuits. Et j'avais pensé au conte du rêveur éveillé, le rêveur éveillé, qui est à l'intérieur des mille et une nuits. Et donc, je nous invite à aller sur le chemin des mille et une nuits. Il y a très très longtemps, un grand empire qui allait des Indes jusqu'en Chine et jusqu'en Perse. Et le sultan avait deux fils, le prince aîné, le prince Shahriar, le prince cadet, le prince Shahzeman. Et à la mort du sultan, l'aîné, le prince Shahriar, est devenu sultan à son tour. Et selon la tradition, le petit frère n'avait rien du tout. Mais comme le sultan Shahriar aimait toujours son petit frère Shahzeman, il lui a offert le royaume de Tartarie, dont la capitale était Samarcande. Et ainsi ils se sont séparés. Shahzeman est allé à Samarcande et le sultan Shahriar est resté dans les Indes. Et au bout d'un certain temps, le sultan Shahriar avait la nostalgie de son petit frère. Aussi, il envoyait un messager pour demander à Shahzeman de venir rejoindre son frère. En quelques jours, le roi Shahzeman s'est préparé. Il a préparé ses hommes et ils ont fait un campement à la sortie de Samarcande pour que le lendemain matin, à l'aube, avant que le soleil ne se lève, ils puissent partir en direction des Indes et du sultan Shahriar. Et là, le roi Shahzeman est devant sa tente. Il y a la lune qui brille dans la nuit. Et il pense à sa femme, qu'il ne va pas voir pendant des jours, des semaines, peut-être des mois. Et il voudrait la voir encore une dernière fois avant de partir. Aussi, discrètement, il quitte le campement, traverse la ville, arrive jusqu'au palais, monte les escaliers pousse la porte de la chambre où quelques lampes brillent. Il voit sa femme allongée, endormie, paisible. Mais là, elle n'est pas seule. Un homme est à ses côtés. Sans hésiter une seconde, il dégaine son cimeterre et tranche les deux têtes. Puis il retourne au campement. Et le lendemain, il repart comme prévu sur la route jusqu'à son frère, le sultan Shahriar. Il est triste et mélancolique. Et à l'arrivée, malgré les réjouissances que lui procure son frère, il n'arrive pas à retrouver sa gaieté d'antan. Le sultan Shahriar s'en rend compte et essaye de faire des fêtes de plus en plus importantes avec de plus en plus de danseuses, des repas avec des loukoum à la pistache, des cornes de gazelle. Et son frère est toujours mélancolique. Le sultan Shahriar le presse de questions. « Mais que t'est-il arrivé, mon frère, pour que tu sois si triste ?» Et bon, il n'allait pas se vanter d'avoir été trompé par sa femme, par un homme dans le lit de sa femme avant son départ. Donc il se taisait. Et le sultan Shahriar décide de faire une grande fête et de partir en chasse pendant quelques jours pour divertir à son frère. Et le frère dit non. « Non, je vais rester dans ton palais. Je te remercie de m'avoir donné une chambre magnifique avec une fenêtre qui donne sur le jardin. » Le sultan Shahriar est parti à la chasse et le prince, le roi Sazeman est resté au palais. Et la nuit venue, il était adossé à la fenêtre, écoutant le chant du rossignol et regardant le jardin, silencieux dans la nuit. Il entendit une porte qui grince. Il n'avait pas remarqué cette petite porte dérobée. La porte s'est ouverte. La sultane est entrée. Qu'elle était belle. Quelle chance il avait, son frère, d'avoir une femme si belle et si fidèle. Elle était suivie d'une vingtaine de jeunes filles. La porte s'est refermée. Les 20 jeunes filles se sont dévêtues. Et sous ses robes, il n'y avait pas 20 jeunes filles, mais 10 jeunes filles et 10 jeunes gens qui peu à peu se sont dévêtus et ont goûté les plaisirs des hommes et des femmes dans leur nudité. La sultane nue a appelé. Un homme est descendu d'un arbre du jardin et s'est couché sur elle. Et puis, ils ont changé de partenaire. Le roi Sazeman était dans un premier temps horrifié. Et puis, il s'est réjoui. « Ah, moi je n'ai été trompé que par un homme !» Et la sultane a goûté au plaisir de 10 hommes. Mon frère est trahi par 10 hommes ou une femme qui a trahi avec 10 hommes. Ah, il a changé d'humeur. Et lorsque son frère est revenu de la chasse, il a été surpris par l'hilarité de son frère. Et mais que t'est-il arrivé, Sazeman ? Tu étais triste quand tu es arrivé et te voilà changé d'humeur maintenant. Mon frère, a dit Sazeman au sultan Shahriar, « je vais te raconter pourquoi, quand je suis arrivée, j'étais triste. Comment j'ai découvert que ma femme m'avait trahi avec un homme. Mais... Et donc, j'étais très triste en arrivant. Mais bon, je ne te dirai pas pourquoi j'ai retrouvé ma bonne humeur. » Mais le sultan Shahriar a pressé son frère, au point qu'il a fini par tout avouer de ce qu'il avait vu, de ce qu'avait fait la sultane. Dans un premier temps, le sultan Shahriar a dénié. « Non, ce n'est pas possible. Ma femme ne peut pas faire ça. » Et puis, c'est rentré dans son cœur. Il a dit, « Mais comment je peux m'assurer que ce que tu me dis est la vérité ?»« C'est simple, mon frère. Nous partons à la chasse. Et puis, nous reviendrons et tu verras ce que tu verras. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis à la chasse et tôt le matin et dans la nuit, incognito, ils sont revenus. Ils ont poussé la porte dérobée du jardin. Et le sultan Shahriar a vu ce qu'il a vu, ce que nous connaissons déjà, chers auditeurs. Il a fait trancher toutes les têtes. Et le lendemain matin, ils sont partis tous deux, côte à côte. Ils ont marché, ils ne sont plus retournés à la chasse, non. Mais ils sont allés vers la mer. Et là, adossés à un arbre, ils ont contemplé l'immensité des eaux. Ils étaient tristes d'avoir été trompés, l'un avec sa femme par un homme, l'autre avec sa femme la veille dix hommes. Et au loin, ils ont vu quelque chose d'étrange qui sortait de l'eau, une sorte de caisse. Et sous la caisse, une boule, une tête, mais une tête immense, un géant qui venait vers eux, vers le rivage. Oh, vite, ils sont montés à l'arbre. Le géant approchait. Il était complètement sorti de l'eau et il est arrivé sur la plage. Il a déposé la caisse. Il avait quatre clés pour ouvrir quatre cadenas. Il a soulevé le couvercle. Et là, une très jolie jeune femme est sortie de la caisse, s'est assise et le géant a posé son énorme tête sur les cuisse de la jeune femme. Et il s'est endormi. La jeune femme commençait à s'ennuyer, à regarder de gauche, de droite, la plage, la mer, et ses yeux se sont levés vers le ciel. Et elle a vu dans l'arbre les deux hommes réfugiés. Elle leur a fait un geste pour qu'ils descendent. Ils ont dit non, 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 ils avaient trop peur du géant. Elle a insisté en leur disant qu'elle le réveillerait s'ils ne descendaient pas. Ils se sont exécutés, ils sont descendus de l'arbre. Et là, elle a insisté pour qu'il leur fasse des faveurs. L'un après l'autre, Elle s'est dégagée délicatement de la tête du géant qu'elle a posée sur le sable sans le réveiller et elle a menacé de réveiller le géant s'il ne s'exécutait pas à ses désirs. Ils se sont exécutés malgré eux et lorsqu'ils ont terminé, elle a vu qu'ils avaient des bagues aux doigts. Elle a demandé qu'ils leur donnent chacun une bague. Et puis, elle a trouvé un long fil d'acier où il y avait déjà, leur dit-elle, 98 bagues. Oui, malgré les 4 cadenas, elle avait su trahir son géant de mari en ayant 98 amants et elle était très contente d'avoir 2 bagues supplémentaires pour faire la centaine. Ils sont délicatement sortis de la plage, si on peut dire. Ils se sont éloignés d'elle et de ses 98, ses 100 bagues et son histoire. Et ils sont retournés au palais du sultan Shahriar. Ils se sont séparés. Sazeman est retourné à Samarcande. Et le sultan Shahriar a décidé que tous les matins, le vizir lui trouverait une nouvelle femme à épouser, qu'il passerait la nuit avec elle et qu'au lendemain, le bourreau se permettrait d'exécuter cette femme. Et chaque jour, le vizir devait trouver une nouvelle femme à épouser au sultan Shahriar. Au début, ce sont les généraux, enfin les filles des généraux, puis peu à peu, les filles des officiers, ensuite les filles des sous-officiers. Et chaque nuit, un nouveau mariage, une nouvelle femme pour le sultan Shahriar, et chaque matin à l'aube, une exécution. Puis après, c'était les filles du peuple. D'abord les filles des bourgeois, puis les filles du peuple. Il n'avait plus de filles à marier. Et le vizir s'est confié à sa fille qu'il aimait tant. Scheherazade. Et il a dit à Scheherazade, « Je ne sais pas comment faire pour demain, car demain matin sera la dernière exécution de la dernière fille du pays, et je n'aurai plus de femme à proposer, à épouser pour le sultan Shahriar. » Et Scheherazade a regardé son père, il lui a dit, « Si, il en reste encore une. » « Bah oui. Et laquelle ?»« Moi, père. »« Toi, ma fille, la prunelle de mes yeux. Mais il n'en est pas question. »« Fais-moi confiance, père. Fais-moi confiance. »« J'épouserai le sultan Shahriar. Et avec l'aide de ma petite sœur, Dwanazade, je sauverai les femmes du pays. Enfin, celles à naître. » Et c'est ainsi que Scheherazade a dû raconter mille et une histoires pendant mille et une nuits pour sauver sa tête et celle de toutes les femmes avec l'aide de sa petite sœur. Elle s'est donc mariée au sultan Shahriar, et la nuit de noces, Dwanazade a frappé à la porte de la chambre nuptiale. Scheherazade, Scheherazade, ma sœur, Je n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu me permets d'entrer dans la chambre et que tu me racontes une histoire ?» Et à travers la porte, Scheherazade a répondu « Ah, si le sultan Shahriar est d'accord, je veux bien que tu rentres. » Et le sultan Shahriar a accepté. Et Dounazade est rentrée dans la chambre nuptiale. Elle s'est assise sur le lit. « Oh, ma sœur, Scheherazade, ma sœur, ma grande sœur bien-aimée, acceptes-tu de me raconter une histoire pour me permettre d'aller m'endormir ?» Et Scheherazade a dit « Ah, si le sultan Shahriar accepte que je te raconte une histoire, je te raconterai une histoire. » Et le sultan Shahriar a accepté que Scheherazade raconte une histoire pour les enfants, une histoire pour les endormir. Et c'est comme ça que Scheherazade a raconté l'histoire du rêveur éveillé. C'était un riche marchand qui, tous les soirs, allait à la porte de la ville. La ville du calife Al-Rachid. Et ce marchand n'aimait pas manger tout seul. Aussi, il allait tous les soirs à la porte de la ville du calife Al-Rachid pour inviter un étranger à venir manger à sa table, dormir chez lui, et le lendemain, il partirait une nuit seulement. Et ce soir-là, c'était un marchand étranger qui était accompagné de son serviteur. Et le marchand Al-Wassan a dit « Venez, venez étranger, manger à ma table et dormir pour une seule nuit. » Et ils sont allés à la maison du marchand Al-Wassan. Là, il leur a servi un repas magnifique. Il y avait du mouton, il y avait des épices, des légumes, et des desserts, des fruits, des pâtisseries. Ils ont devisé longuement, ils parlaient poésie. Et l'étranger appréciait la conversation de ce riche érudit. Et il l'appréciait de questions. Pourquoi juste une seule nuit? C'est étrange. Ce ne sont pas tout à fait les lois de l'hospitalité. Et à force d'être pressé, Al-Wassan a raconté. Il a raconté qu'autrefois, il vivait avec son père qui était encore vivant, qui était un très riche marchand. Et il le étriquait, il l'empêchait de dépenser comme il aurait aimé. Et sa mère l'avait conseillé d'être prudent, car à la mort de son père, il s'est retrouvé héritier d'une immense fortune. Mais il a été prudent, comme sa mère le lui a conseillé. Il a mis à moitié sa fortune. Avec cette moitié, il a même acheté des biens pour pouvoir avoir des revenus. Et l'autre moitié, il l'a mis dans un coffre immense, avec la possibilité de le dépenser à satiété, se venger un peu de son père qui l'étriquait. Il a fait des fêtes. Il a invité des dizaines, des cinquantaines, des centaines de personnes et il les a régalées en mai, en poésie, en danse, avec des danseuses merveilleuses. Oui. Jusqu'au jour où il n'y avait plus d'argent. Tous les matins, tôt, il est retourné chez ses amis qu'il invitait copieusement pour leur demander de lui prêter une somme afin qu'il se refasse, et il rembourserait généreusement. Chacun lui a retourné le dos, et lorsque parfois il les croisait dans la rue, il l'évitait. Il ne pouvait compter sur aucun de ses anciens amis qui avaient plaisir à se régaler à sa table et à ses fêtes. Aussi, cher étranger, à compter de ce jour-là, j'ai décidé, car je n'aime pas manger seul à ma table, d'inviter un étranger pour une nuit, et une seule nuit. Et demain matin, tu te chargeras de fermer la porte, car je suppose que tu partiras avant moi. Et l'étranger lui a dit, oh, je suis très touché par ton histoire, et toi qui m'as si généreusement régalé, j'aimerais te faire un cadeau. Je ne sais pas, tu as peut-être une fois dans ta vie rêvé quelque chose d'absolument irréalisable et que je pourrais peut-être t'aider à réaliser. Figure-toi, je suis assez proche du calife El-Rachid et je pourrais lui demander de réaliser ton souhait. À force d'insister, finalement, Al-Hassan a dit « Oui, figure-toi que dans le quartier, il existe trois êtres absolument imbuvables qui réclament des taxes, qui font la loi dans le quartier et qui sont soutenus par le chef de la police. Et franchement, si j'étais un jour le calife Al-Rachid, je leur donnerais une bastonnade terrifiante à ces trois lascars et ce chef de la police. » L'étranger avait entendu. Discrètement, il a versé un soporifique dans le verre d'Al-Hassan. Il lui a mis du vin et lui a dit « Toi qui m'as régalé toute la nuit, accepte ce dernier verre de l'amitié avant que nous allions nous coucher et nous séparer. Et demain, je partirai. » Comme c'était si généreusement offert, Al-Hassan a bu d'un trait et s'est tombé immédiatement endormi. Le calife Al-Rachid, car c'était lui, a demandé à son serviteur de charger Al-Hassan sur son dos et d'aller jusqu'au palais. Au palais, il a déposé Al-Hassan dans le lit du calife. Il a demandé à tous ses serviteurs qui l'attendaient, car aucun n'avait osé s'endormir avant son retour. Il avait coutume de partir en ville comme ça, déguisé en marchand étranger, pour pouvoir voir un peu ce qui se passait dans sa ville et voir si tout le peuple était content. C'était un bon calife. Et il a demandé à tous ses serviteurs de faire scrupuleusement tout le rituel pour le calife, comme si c'était lui, et de faire tout le protocole et de l'appeler tout le temps le calife. Lui, il se cacherait derrière quelques rideaux pour voir comment la journée allait se dérouler. Et au matin, quand Al-Hassan s'est réveillé, il a vu toutes les splendeurs du palais, tous ses serviteurs qui étaient attentifs à son réveil. Est-ce que le calife Al-Rachid a bien dormi? Mais bon, je ne suis pas le calife, mais qu'est-ce qui leur prend? Mais je rêve. Il s'est pincé? Non, il ne rêvait pas. Est-ce que le calife Al-Rachid a bien dormi? Est-ce que le calife Al-Rachid veut bien se lever pour faire la prière du matin? Et il y avait des habits somptueux. Et il y avait de la nourriture. El calife, El Rachid veut bien se mettre à table. Il était le calife El Rachid. Comment ça s'était passé? Alors, il n'a... Ah, Il est allé dans la salle du trône. Il y avait le vizir. Il y avait les autres vizirs. Il y avait tout le protocole. Oh, il était le calife Al-Rachid. Oh, il allait réaliser son rêve. Waouh, il a demandé au bourreau d'aller dans le quartier d'Al-Wassan. C'est le quartier d'Al-Wassan. Tout le monde le connaît, Al-Wassan. D'une part, bon, le bourreau, tu donneras 5 coups de bâton à ces 3 malfrats et au chef de la police. Et puis toi, là, l'intendant du trésor de Khalif al-Rachid, tu donneras une bourse de 500 pièces d'or à la mère d'Al-Wassan. Si, si, tu trouveras la maison d'Al-Wassan. Tout le monde le connaît. Et puis, il a continué une journée de calife al-Rachid. Et puis, il s'est endormi après avoir bu un soporifique et avoir fait la joie du véritable calife al-Rachid qui s'est dit « Ah, celui-là, il a de la suite dans les idées. » Et quand le faux calife al-Rachid s'est endormi dans le vrai lit du calife al-Rachid, il y a le serviteur du calife al-Rachid qui a pris Al-Wassan sur son dos, qui avait retrouvé ses vêtements d'Al-Wassan, et il s'est endormi dans le lit d'Al-Wassan. Au lendemain matin, Al-Wassan s'est réveillé. Il ne comprenait pas pourquoi il était dans la maison d'Al-Wassan, lui, le calife Al-Rachid. Pourquoi il n'était pas dans sa maison? Et quand sa mère est venue lui dire « Al-Wassan, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive de dormir si longtemps ?»« Comment, mais je ne suis pas Al-Wassan, je suis le calife Al-Rachid !»« Mais non, mon fils, qu'est-ce qui fait? Mais t'es devenu fou !»« Ah, tu aurais aimé, ah mon fils adoré, t'aurais aimé être là hier, je sais pas pourquoi t'étais pas là. Oh, il y a le bourreau qui est arrivé et qui a maltraité, qui a fouetté les 3 scélérats et le chef de la police, comme tu le répétais si souvent. Ah, si tu avais là, t'es là. Tu aurais été content. Mais c'est normal, c'est moi, le calife al-Rachid, qui a commandé cela. Et j'ai même demandé à ce que l'intendant t'envoie à toi. Ma mère, oui, ma mère, oui, je suis Al-Wassan. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, ma mère. Ah, oui, je t'ai envoyé, en tant que calife al-Rachid, une bourse? Oui, oui, mon fils. Oui, oui, je l'ai bien reçue. Mais c'est moi, le calife al-Rachid, qui te l'ai envoyé. Mais, mon fils, tu es mon fils, Al-Wassan. Oui. Oui. Je suis ton fils. C'était un peu difficile pour lui. Mais un jour, le calife al-Rachid en personne est venu pour rassurer Alafa, Al-Wassan et sa mère. Mais bien sûr, cette histoire que a racontée Shahrazad, elle n'a pas pu le raconter comme je vous le raconte, chers auditeurs, en entier, car il fallait qu'elle arrête l'histoire à moitié, afin de donner envie au sultan Shahriar de connaître la suite de l'histoire. Mais moi, je voulais raconter en entier, car on raconte qu'il n'est pas bon de raconter les histoires qu'à moitié. Et c'est ainsi que moi, je vous termine l'histoire sans fin que Shahrazad a racontée pour sauver sa tête et celle de toutes les femmes. m'avoir écouté. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.